Voilà. Eh bien, vous êtes sur le podcast de Ford, avec vos Ford Zephyra, l'actu people, comme vous le savez, eh bien, c'est en émission, en segment spécial, je peux dire, sur le podcast de Ford. Épisode ça, son épisode qui spécial, l'actu people. Et bien, l'actu people, c'est qui est basé exactement sur les informations des stars. Vous allez avoir plein d'informations sur les stars d'Hollywood, les stars du monde. C'est un segment spécial au podcast de Ford, le podcast de Ford. Eh bien, aujourd'hui, on va vous apporter 50 minutes Insider avec TF1. C'est paru le samedi 22 décembre 2018. Podcast de Ford. Voilà, 50 minutes d'actualité, 50 minutes d'insider. Le podcast de Ford. Actu People. Voilà, Actu People avec TF1, 50 minutes.
Acteurs n'est pas finalisé pour autant. La rumeur dit qu'Angelina Jolie est ruinée. Mais que cache cet accord inattendu? Voici un sujet signé Amira Bouziri.
C'est une nouvelle inespérée. Après 2 ans d'une guerre sans merci, Angelina Jolie et Brad Pitt ont trouvé un accord pour la garde de leurs 6 enfants.
Après une guerre de 2 ans, quand même assez sanglante, ça y est, on a enfin un arrangement. C'est top secret.
L'agreement, ce serait que Angelina ait les enfants, donc elle aurait la garde, mais Brad Pitt pourrait venir les visiter quand il veut.
Depuis l'annonce de leur séparation en septembre 2016, les enfants du couple étaient l'enjeu majeur de ce divorce très médiatique.
Angelina Jolie veut garder ses enfants à tout prix. Elle est en mode mère protectrice qui est prête à tout pour maintenir cette unité familiale, quitte à dire du mal de Brad Pitt dans son dos à ses enfants ou chercher à avoir le plus d'argent possible.
En trouvant un terrain d'entente, les deux stars s'épargnent un procès long et coûteux. Mais le divorce n'est pas prononcé pour autant. Le couple aurait demandé un délai de 6 mois pour régler les questions financières.
Le divorce de Brad et Angelina est un feuilleton interminable.
Alors que des rumeurs de plus en plus insistantes disent Angelina Jolie ruinée, la guerre avec Brad Pitt est-elle vraiment terminée? Tout semble aller mieux pour Brad Pitt en cette fin d'année. L'accord signé avec Angelina Jolie permet enfin à l'acteur, qui s'était fait très discret ces dernières années, de renouer avec ses enfants.
Pour Brad Pitt, c'est une excellente nouvelle. Ils étaient engagés dans des négociations très tendues. Ils se battaient pour obtenir la garde des enfants. Et Brad, de son côté, n'avait même pas le droit de leur rendre visite.
Là, il peut avoir ses enfants très régulièrement. Ils peuvent venir dormir chez lui, ce qui a été le cas le soir de son anniversaire qui a eu lieu cette semaine. Donc, il a pu passer la soirée avec ses enfants. Donc voilà, c'est un pas immense qui a été franchi dans l'histoire de leur divorce.
Comme le révélait Voici hier, l'acteur a même transformé son jardin en aire de jeu en vue des futures visites. Si la nouvelle a beaucoup surpris, c'est que depuis leur séparation en 2016, Angelina Jolie a tout fait pour obtenir la garde exclusive des enfants, quitte à traîner son ex dans la boue.
Dans cette fameuse histoire de divorce, Angelina Jolie n'aurait pas hésité à dire du mal de Brad Pitt auprès de ses enfants, auprès de leurs enfants. Notamment, elle aurait ainsi dit à Pax, leur fils, que Brad Pitt n'avait jamais voulu qu'elle l'adopte, qu'il était contre le fait qu'ils rejoignent leur famille.
De jouer avec un enfant abandonné, adopté, sur cette corde sensible, c'est vraiment méchant.
Une stratégie qui avait fini par nuire à l'image d'Angelina Jolie. Alors en signant cet accord, l'actrice essaierait-elle d'inverser la tendance ?
Le fait d'accepter une garde partagée avec Brad Pitt, c'est évidemment une manière pour elle de redorer son blason ou du moins d'arrêter les frais. On le sait, voilà, elle est allée beaucoup trop loin dans le divorce. Pour elle, d'un point de vue d'image de marque, c'est un bon mouvement à faire. Elle n'avait plus trop le choix en fait.
Car aux États-Unis, où le divorce d'Ebrangelina fait régulièrement l'objet de débats sur les plateaux de télévision, les critiques ne sont pas tendres envers l'actrice.
Vous pouvez jouer l'envoyé humanitaire autour du monde comme vous voulez, mais quand il s'agit de ce que vous ressentez vraiment, vous avez un cœur de pierre en ce qui concerne vos 6 enfants.
En fait, elle aurait vraiment tout fait pour éloigner Brad de ses enfants.
On s'étonne de la voir aussi philanthrope à l'ONU et aussi perverse en famille.
Un comportement qui, pour certains, fait écho à l'enfance instable d'Angelina Jolie. Elle n'a 1 an lorsque ses parents, John Voight et Marceline Bertrand, se séparent. C'est sa mère qui l'élève seule avec son frère.
Angelina vient d'un foyer éclaté. Ses parents ont divorcé quand elle était petite. Alors on se dit qu'en fait, elle serait en train de répéter son schéma familial.
Le comportement d'Angelina Jolie va même jusqu'à la desservir sur le plan professionnel.
Elle est allée trop fort. Ça a terni son image publique. Ça a probablement aussi pas aidé au niveau de sa carrière, puisque évidemment, quand on va voir un film avec une actrice, on a plutôt envie, quand on est producteur, que l'actrice en question ait plutôt une bonne image publique, parce qu'on n'a pas tellement envie d'aller voir des films de gens dont on se dit que dans la vie, c'est pas forcément des gens très sympas.
L'actrice n'a pas beaucoup tourné récemment. Son dernier rôle remonte à Maléfique, sorti en salle il y a 4 ans.
Ces dernières années, Angelina a levé le pied sur son métier d'actrice pour se consacrer à celui de réalisatrice.
La réalisation de films de guerre, une activité moins lucrative qu'un premier rôle dans un film à gros budget.
La question est, est-ce qu'Angelina est une réalisatrice à succès ? Bon, au vu du nombre d'entrées, on pourrait dire non. Mais si l'on considère un point de vue artistique, ses ambitions, on peut dire que... Oui, c'est plutôt une bonne réalisatrice. Elle a réalisé des films très difficiles, très sombres. Voilà pourquoi je pense qu'elle a choisi de se limiter à une réalisation où sa passion l'emporte sur son désir de gagner de l'argent.
Ces dernières semaines, des rumeurs vont même jusqu'à dire qu'Angelina Jolie serait ruinée.
Elle s'était plainte, disant que Brad ne payait pas la pension alimentaire, soit 50% des frais pour les enfants. Mais lui avait répondu qu'il lui avait donné près de 2 millions en même pas 2 ans. Alors les gens ont commencé à se demander, mais pourquoi a-t-elle besoin d'autant d'argent ?
L'argent, l'autre enjeu de ce divorce interminable. Les deux acteurs ont obtenu un délai de quelques mois pour se mettre d'accord sur le partage de leurs biens.
Il y a de nombreuses propriétés qui seront au cœur de la procédure de divorce. En tout cas, la seule que Brad et Angelina semblent vouloir garder, c'est le château de Miraval, qu'ils souhaitent léguer, a priori, à leurs enfants.
Il ne faut pas oublier qu'ils sont mariés sous régime de la communauté, donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont acquis, à partir du moment où ils étaient mariés, leur revient à 50% à tous les deux.
En attendant ce prochain épisode, les deux acteurs seront bientôt chacun de leur côté, de retour au cinéma.
Angelina Jolie a de nombreux projets en vue, notamment Maléfique 2, qui sera projeté dans tous les cinémas en 2019. Et elle a aussi 9 autres films en cours de préparation.
En 2019, nous reverrons Brad Pitt au cinéma. Il y a quelques films en projet. Et le plus important, c'est celui qu'il vient de finir de tourner avec Quentin Tarantino, Il était une fois Hollywood, dans lequel il sera à l'affiche aux côtés de son ami Leonardo DiCaprio.
Des films très attendus pour les deux stars hollywoodiennes qui, sur grand écran ou dans les tribunaux, feront à coup sûr l'actualité de l'année 2019.
Et pour plus d'infos, n'oubliez pas que vous pouvez toute la semaine nous suivre sur les réseaux sociaux avec nos comptes 50 Inside et le hashtag 50 et Men Inside. À suivre dans la deuxième partie de 50 Minutes Inside l'actu, Michel Polnareff en toute intimité à Las Vegas, mais aussi les confidences de la nouvelle Miss France. À tout de suite. Il n'a rien perdu de son extravagance et de son mythique sens de la provoque. Michel Polnareff, cheveux bicolores, éternelles lunettes blanches, le chanteur nous a reçus à Las Vegas pour parler de son nouvel album que l'on attendait depuis 28 ans, mais aussi pour nous inviter à partager son intimité en compagnie de Daniela, la mère de son fils Luca. Michel Polnareff, en toute intimité à Las Vegas, c'est un reportage de Sarah Amrouni et Victor Parachensky.
Las Vegas, c'est dans la capitale américaine du divertissement et de la démesure que nous a donné rendez-vous Michel Polnareff. C'était il y a 3 semaines, une rencontre à 9000 km de la France pour nous faire découvrir son tout nouvel album.
Ça, c'est le piano pour Grandipa que j'ai composé en pensant à mon fils Luca. En fait, c'est l'égoïsme d'un père qui n'a pas envie que son fils grandisse, etc. Et donc, du coup, je ne l'ai jamais fait écouter à Luca parce que j'ai peur qu'il le prenne au premier degré. Donc, qu'il se dise, ah, tiens, Daddy, il veut pas que je grandisse, alors je ne vais pas grandir, il ne veut pas que je grandisse. Il comprendra plus tard.
À 74 ans, Michel Polnareff est papa d'un petit garçon de 8 ans. Et a lui-même toujours une âme d'enfant en découvrant un piano.
J'étais en train d'essayer le piano qui sonne pas mal d'ailleurs. Pas aussi bien que le mien. Ça, c'est à demi-queue, moi j'ai un quart de queue. Je parle des instruments, hein, c'est pas sexuel. Hein.
Cheveux blonds lissés, pointe colorée de rouge, Polnareff continue de cultiver son sens de la provoque et aime toujours autant se faire désirer. Ce jour-là, nous l'avons attendu 8 heures dans son hôtel avant de le rencontrer.
Plus beau de la pièce.
Une bagatelle comparée aux 28 ans d'attente de ses fans pour la sortie de ce nouveau disque, le bien nommé Enfin.
Ouais, non, c'est très bien.
C'est bien, je suis content.
Michel Polnareff, le plus mégalo-kitsch et le plus rare des chanteurs français, a accepté de nous livrer quelques confidences sur ce grand retour. C'est au mythique hôtel César Palace que Polnareff aime loger lorsqu'il vient à Las Vegas avec sa femme Daniela.
D'accord.
Cet après-midi, son disque vient de sortir depuis à peine quelques heures. Et l'amiral est heureux.
Il y a quelque chose qui va pas, j'ai une très bonne humeur. Non, mais on est numéro 1. Hein.
Pour célébrer la sortie de son 10e album, Michel Polnareff, fier de son nouveau look, a décidé de se faire photographier dans le désert. Mais à bord de son 4x4 américain, ce n'est pas de musique dont il veut tout d'abord nous parler.
Un truc qui me gonfle complètement, c'est les mecs qui me disent que je suis démago parce que je prends la défense des gilets jaunes et que j'en profite pour promouvoir mon disque. C'est simplement que je suis sensible à leur démarche, je suis sensible aux problèmes qui se passent.
Quelques jours avant notre rencontre, Polnareff affichait son soutien aux gilets jaunes. S'il s'est exilé aux États-Unis il y a 45 ans et ne compte pas revenir dans notre pays, l'artiste suit pourtant de près l'actualité française.
Moi, je suis français. Je veux dire, je suis un Français qui vit en Amérique. On est des déracinés. Mais alors, est-ce que je suis absolument? Et je la suis avec intérêt et inquiétude.
Sa compagne, Daniela, est elle aussi française. Le couple vit en Californie, dans la ville de Palm Springs.
Il me faut mon chapeau, hein?
Ouais.
Elle est aujourd'hui sa styliste et sa photographe.
Comment c'est ?
Voilà, très bien.
Pour ce retour sous les projecteurs, Polnareff ne néglige rien.
J'aimerais bien savoir comment il le look.
C'est très bien.
Surtout pas son image. Un homme perfectionniste, pointilleux, car encore aujourd'hui, Michel Polnareff tient à conserver l'extravagance de son personnage.
J'adore.
Celle qu'il avait su créer dans les années 70, en montrant notamment son postérieur. Une affiche de concert qui, à l'époque, lui avait valu une amende de 6 millions d'anciens francs, 9 000 euros.
C'est des photos plus classiques par rapport à ce que les fans ont connu de vous.
C'est-à-dire plus classique?
Moins provoque, non?
Attendez.
Voilà.
Me poussez pas, hein. Moi, je suis pas pour la provoque systématique.
moi, c'est toujours de la provoque. Si on appelle ça de la provoque, pour moi, c'est de la provoque sympa, quoi.
Daniela, qu'est-ce que vous recherchez à faire comme image de Michel quand vous le prenez en photo?
J'essaye de trouver un angle ou quelque chose qui fait qu'on... le public ou le fan ou n'importe qui en fait arrive à comprendre ce qui passe par la tête.
Le Polnareff 2018 s'est renouvelé tout en restant fidèle à son passé, à l'image des chansons de ce nouvel album.
Position horizontale, soulève verticale.
Un disque sur lequel le chanteur a travaillé pendant près de 10 ans.
Le travail en studio est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encouragé par le public. Il n'y a personne, il y a une solitude terrible. Donc moi par exemple quand je suis sur scène, je communique beaucoup avec le public. C'est une espèce de communion parce que je chante des chansons qu'ils connaissent déjà. Et donc ils peuvent, disons, chanter en même temps que moi. C'est une espèce de grande messe formidable. J'adore ça. Maintenant quand on fait un nouvel album, je me mets dans un état de réception d'un public imaginaire.
La dernière fois que Michel Polnareff a sorti un disque, c'était il y a 28 ans, en 1990. Le chanteur, pour créer Kama Sutra, ce qui deviendra l'un de ses albums majeurs, s'enferma au Royal Monceau, un palace parisien, pendant près de 800 jours, transformant des pièces entières de l'hôtel en studio.
J'allume mon écran. Sur le clavier.
Jour après jour, les équipes de Michel Polnareff ont filmé la lente progression de l'enregistrement. Des images qui à l'époque provoquèrent l'intérêt des médias, comme en témoigne cet extrait d'un journal télévisé d'Antenne 2 en février 90.
Si vous êtes là-bas, c'est que vous sortez plus de votre hôtel depuis des mois, c'est vrai ça?
Oui, c'est absolument vrai, parce que j'ai cherché une situation dans un studio d'enregistrement conventionnel pour... disons, créer 24 heures sur 24 le disque que je viens de sortir. Et je n'ai pas trouvé une situation, disons, qui me convienne, une situation conventionnelle qui me plaise. Et comme j'ai un certain goût pour les choses différentes, j'ai donc décidé de transformer l'hôtel en espèce de studio modèle.
Son nouveau disque, Michel Polnareff, l'a cette fois-ci enregistré entre la France, la Belgique et les États-Unis. À Las Vegas, ce soir-là, le chanteur veut écouter depuis un studio la version CD de son album qu'il vient tout juste de recevoir de France.
Ça, c'est, je suis désolé, c'est le tube de l'album. Désolé, c'est évident.
À ses côtés, tous les acteurs de son retour. Fabien Lecoeuvre, son attaché de presse, Serge Khalifa, son manager, et toujours Daniela, sa compagne.
Et là, quand les cordes rentrent, magique. Là, maintenant. Là, des vrais.
L'écoute commence par le titre dans ta playlist, son morceau préféré.
Ouais, c'est très méchant. Très, très méchant. C'est plus à moi, c'est plus. C'est pour tout le monde.
Pourquoi vous dites que c'est plus à vous?
Parce que quand c'est à moi, c'est quand je le compose au piano ou chez moi, là c'est à moi. Après, quand c'est fini comme ça, bah c'est pour ceux qui l'écoutent. C'est plus, ça m'appartient plus. Ça m'appartient plus.
L'album compte 11 chansons, toutes écoutées des milliers de fois par Michel Polnareff. Certains titres enregistrés à Bruxelles ont subi pas moins de 200 mixages. D'hier à aujourd'hui, Polnareff, l'obsessionnel, n'a jamais sorti un album sans donner le meilleur de lui-même. C'est notamment pour cette raison qu'après Kama Sutra, il s'est octroyé une si longue pause.
Je ne me sens pas du tout obligé de sortir des disques si je n'ai pas envie d'en sortir. Parce que quand je m'y mets à fond. Et on peut passer littéralement des nuits et des jours où on oublie de manger, on oublie de dormir, on oublie... soit je fais, soit je fais pas.
Ce nouvel album, enfin sorti, Michel Polnareff souhaite aujourd'hui repartir en tournée. Un défi prévu pour 2019.
«
C'est la nouvelle Miss France. Elle est fantastique. Elle a tout pour elle. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle s'appelle Vaimalama Chavez. Elle a décroché la précieuse couronne samedi dernier devant plus de 7 millions de téléspectateurs. Et cela faisait 20 ans qu'une Miss Tahiti n'avait pas remporté ce célèbre titre. Et une semaine après son sacre, et juste avant de repartir sur son île, célébrer sa victoire avec les siens, Vaimalama Chavez, qui se fait appeler Vai, a accepté de revenir avec nous sur son année de folie. Le portrait de Miss France 2019 est signé Claire Plantinet.
C'est dans un restaurant parisien redécoré aux couleurs de Noël que Nikos a fait la rencontre de Miss France 2019, élue il y a tout juste une semaine.
Ça va bien ?
La plus belle.
Merci.
Je suis heureux de faire votre connaissance.
Moi aussi, je suis contente de vous rencontrer.
Je peux vous appeler par le diminutif ?
Bien sûr. Vous pouvez m'appeler Vai.
Vai, c'est magnifique.
Merci.
Vous vivez un conte de fées ?
Oui.
D'autant plus que c'était pas quelque chose de prévu il y a encore 6 mois.
Ah non.
Vous n'étiez même pas Miss Tahiti.
Pas encore.
Et maintenant vous êtes Miss France.
C'est fou, hein.
Et c'était l'occasion pour nous dans 50 Minutes Inside d'essayer de comprendre cette année de dingue que vous venez de vivre, 2018, à quelques jours de 2019. Est-ce que vous acceptez de faire un entretien avec nous ?
Avec plaisir.
Alors c'est parti.
Allons-y.
Suivez le chemin. Voilà, il y avait un ours qui nous regardait pendant l'interview.
Samedi dernier, en direct de Lille et devant plus de 7 millions de téléspectateurs,
Miss France 2019 est...
Lynn Renaud, présidente du jury, a mis fin au suspense de l'élection Miss France.
Miss Tahiti.
À 24 ans, Vaimalama Chavez, Miss Tahiti, a été sacrée Miss France 2019 face à Ophélie Mézino, Miss Guadeloupe.
Il vous arrive beaucoup de choses depuis quelques jours.
Des choses fantastiques, exact.
Quand vous entendez Tahiti, vous réalisez qu'il y a un décalage, c'est au ralenti. C'est un moment qui change votre vie, qui la changera définitivement et à jamais, quoi qu'il advienne.
C'est paradoxal parce que c'est allé très lentement et très rapidement en même temps. Donc je me rappelle ma surprise, je me rappelle avoir serré Ophélie dans mes bras. Et puis je dois avouer que je ne me souviens même pas lorsque Sylvie m'a passé l'écharpe autour du cou, ni quand Maïva m'a posé la couronne sur la tête. C'était un moment de pure émotion. Il n'y a pas de mots, seuls les onomatopées pourraient caractériser ce que je ressentais.
Alors que vous pleurez de joie, vos impressions ?
Ça fait style. Je ne saurais pas quoi dire d'autre, c'est
waouh!
C'est incroyable!
Sapristi, c'est une marque déposée?
On m'a beaucoup charrié pour ce mot, alors que je le dis régulièrement. D'ailleurs, beaucoup de candidates ont été étonnées de me l'entendre dire tout au long de l'aventure. Mais j'aime bien ce mot, je trouve qu'il est beau.
Les vôtres réalisent, ils vous protègent, ils vous appellent 10 fois par jour. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que ça va être un marathon?
Pour ce qui est de manger, non, ils savent que je me nourris très très bien. Mais sinon, à part ça, oui, on essaye de rester en contact autant que possible parce que je suis très sollicitée en tant que Miss France maintenant. Entre les interviews, les plateaux télé, les plateaux radio et puis les shootings photos et tout ça qui font que je vais avoir des souvenirs exceptionnels à la fin de cette année.
Alors, traditionnellement, lorsqu'on interviewe des personnalités, on a effectivement des dates sur plusieurs années, parfois même sur des décennies.
J'en ai pas vécu beaucoup des décennies.
Oui, mais en quelques mois, vous avez vécu des choses qu'on parfois on ne peut pas vivre en une vie.
Oui, c'est vrai.
Malgré votre jeune âge. Alors, je vais vous proposer un certain nombre de rendez-vous, 6 rendez-vous, comme 6 chapitres de votre dernière année. Et on va essayer de les commenter ensemble.
Okay.
D'accord ? C'est vous qui choisissez le voyage, la destination.
Merci.
Et on commence par quoi, Miss France ?
Je vais pas regarder. C'est la réaction de mes parents.
Je suis tellement fière d'elle, fière de tous les efforts qu'elle a fait, fière de ce qu'elle représente.
Je pense qu'on la verra beaucoup moins là, c'est sûr. Et on est très contents pour elle, voilà.
Fille d'une infirmière et d'un employé en télécommunication, Vaimalama Chavez vient de remporter l'élection de Miss France. Elle est la cadette d'une fratrie de 5 enfants. Jeune diplômée d'un master de management devenue community manager, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle et à sa famille.
Comment ils appellent votre papa ?
Moana.
Maman ?
Yasmina.
Qu'est-ce que ça veut dire, Moana ?
Ça veut dire l'océan en tahitien.
C'est magnifique. Est-ce qu'il voulait que vous fassiez d'abord du podium, que vous deveniez Miss ?
Bah non, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'il avait d'autres projets pour moi. Ma mère ne voulait pas que je fasse l'élection de Miss Tahiti non plus. Elle voulait que j'ai plus de diplômes. Donc une fois que j'ai eu mon master et mon premier emploi, j'ai imposé mon choix à mes parents. Et ils n'ont pas eu le choix d'autre que de me suivre.
Est-ce que vous vous projetiez, vous, dans cet univers ?
Non, je dois avouer que non, ça ne faisait pas partie de mes projets. C'est arrivé comme ça. J'avais envie de me présenter à Miss Tahiti, alors j'y suis allée. La première fois que j'ai voulu me présenter, c'était en 2015. Mais j'étais physiquement pas suffisamment prête pour prétendre au titre de Miss Tahiti.
Vis-à-vis des canons esthétiques
c'est ça.
Qu'on doit présenter lorsqu'on est Miss.
C'est vrai. Et du coup, je me suis préparée en faisant plus de sport et en mangeant mieux, plus de légumes, et ça allait mieux.
Alors ça tombe bien, je ne vais pas vous soumettre la date, mais j'ai vu effectivement
une date
où vous faisiez du sport.
J'aime pas ma tête sur cette photo.
Alors appuyez vite, comme ça on la verra moins et on verra la tête d'après, si vous voulez.
Allez, go.
Ce reportage diffusé quelques mois avant l'élection de Miss France, Vaima Lama Chavez livre les secrets de sa préparation physique. C'est grâce au sport qu'elle pratique quotidiennement que la Miss a sculpté son corps et perdu plus de 20 kilos à ses 18 ans. Avec sa taille 40 et son mètre 78, c'est une revanche sur le passé pour celle qui a pesé jusqu'à 84 kilos.
Il y a eu des surnoms qui m'ont particulièrement touchée, tels que le monstre ou des trucs comme ça, ou t'es grosse, t'es moche. Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants, et je ne veux pas de perdants dans ma famille.
Je suis reconnaissante d'avoir vécu ça pour être capable d'encaisser et d'être plus forte aujourd'hui. Mais je suis plus jolie là, maintenant.
Non, mais ce que j'entends et ce que je tire comme un petit enseignement, c'est que vous avez travaillé pour devenir celle que vous vouliez être.
Bien sûr.
Vous parliez dans ce reportage justement du diktat de la beauté concernant le poids, concernant les rondeurs, qu'on soit homme ou femme. Qu'est-ce qu'on apprend quand on a passé plusieurs années à ne pas ressembler à la bande du quartier ?
J'aime pas devenir comme les autres. J'ai reçu une éducation peut-être différente puisque les valeurs qui m'ont été enseignées étaient être une femme capable d'être indépendante et de s'assumer toute seule.
On continue ?
Oui. Mais du coup, j'ai vu Mareva Georges et Mareva Galanter. Donc je vais cliquer sur celui-là.
Très bien.
Miss Tahiti, Miss France.
Il y a 28 ans, Mareva Georges, Miss Tahiti, devenait Miss France 1991. Une reine de beauté polynésienne qui a tout particulièrement inspiré Vaima Lama Chavez.
Miss France 1999 et Miss Tahiti.
Tout comme Mareva Galanter, dernière Miss Tahiti en date à avoir remporté la couronne il y a 20 ans.
Vous êtes maintenant la quatrième Miss Tahiti qui devient Miss France. Il y en a une dans les années 70.
Edna Tepava.
Il y a Mareva Georges, il y a Mareva Galanter. Et il y a vous. Qui vous admiriez ? Quelle était la beauté esthétique pour vous à laquelle vous auriez voulu peut-être ressembler ?
La personne qui m'inspire le plus d'élégance est Mareva Georges. C'est une femme qui est très très belle, qui est très impliquée en Polynésie notamment. Et aujourd'hui encore, quand on parle de belles femmes en Polynésie, c'est elle qu'on cite. Elle est un emblème de féminité, d'élégance et de réussite.
Mareva Georges vit aujourd'hui à Los Angeles, ce qui ne l'empêche pas d'entretenir des liens étroits avec le comité Miss France.
Elle est la plus belle. Elle est là.
Pourquoi il veut dire ça ?
Après une carrière dans le mannequinat, elle est aujourd'hui l'une des ambassadrices de la Polynésie française.
Elle vous a soutenue personnellement ?
Beaucoup, oui. Mon père et elle ont grandi ensemble. C'est une femme exceptionnelle qui m'a apporté un soutien sans mesure. Elle a toujours été là pour moi.
Alors, que nous reste-t-il ? Il nous reste trois rendez-vous. Alors, je vous laisse, si vous souhaitez, le partager avec nous.
J'ai envie de voir mon élection.
De Miss Tahiti ?
Oui.
Alors, c'est parti.
Cher public,
même cette soirée, elle est passée très vite.
Miss Tahiti 2018. La candidate numéro 6, Bella Chavez.
En juin dernier, alors qu'il s'agit de son premier concours de beauté, Vaima Lama Chavez est élue Miss Tahiti 2018 à Papeete.
Je ne trouve pas les mots, je peux juste remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le début. Merci, merci beaucoup pour tout, parce que grâce à vous, j'ai réussi à aller aussi loin.
Une victoire qui va la pousser à quitter son emploi pour s'investir à 100% dans l'aventure Miss France.
Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'important parce que ce que vous aviez mis comme objectif, vous êtes en train de l'atteindre.
Le soir de l'élection de Miss Tahiti, j'ai dit une phrase qui a beaucoup marqué les esprits, qui était « Tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». C'est le soutien de tout le monde qui a fait que j'ai eu la force suffisante pour attraper la couronne de Miss Tahiti. Je serai bientôt à Tahiti et j'ai hâte d'y être. On va faire la fête, on va faire la bringue, c'est comme ça qu'on appelle
Comment
ça.
Comment on fait la bringue à Tahiti?
On est de bons vivants. On mange bien, on boit bien et on danse, on joue de la musique. Donc il y en a qui apportent des instruments. Et on se met tous ensemble, ben, on va chez quelqu'un, on va à la plage ou à la montagne. On partage l'instant, on chante tous ensemble, on fait des medleys. C'est chouette.
On continue, il reste une date.
Allez, le ukulélé.
Le ukulélé.
On est sur les hauteurs de Punavia, à Tahiti.
En duo avec sa mère, Yasmina, Vaima Lama Chavez interprète un chant traditionnel tahitien.
Chez une de mes tatis, une de mes coachs qui a toujours été présente pour nous. Donc elle nous a prêté sa piscine pour qu'on puisse faire de belles images en l'honneur de la fête des mères.
Les femmes ont un rôle important dans la famille tahitienne?
Je dirais que oui, parce qu'on a un fort caractère et donc merci. Elles tiennent d'une main de fer le foyer familial. Elles sont là avec le soutien de leur mari, donc des papas, pour aider les enfants à avancer, à être éduqués et à acquérir les valeurs qui sont importantes.
Vous nous avez appris beaucoup de choses du haut de vos 24 ans. Vous êtes ce que l'on voit et vous ne prétendez pas autre chose. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci de m'avoir reçu.
On souhaite une merveilleuse année à notre nouvelle Miss France. Nous, on file à l'avant-première du film Au bout des doigts, qui rassemble Lambert Wilson et Christine Scott Thomas. Et on va à leur rencontre, justement.
Il est où, Jules, il arrive.
Deux grands comédiens qui accompagnent un jeune acteur, Jules Benchetrit, 20 ans, fils de Samuel Benchetrit, et Marie Trintignant, qui attire tous les regards.
J'ai rarement entendu jouer quelqu'un comme vous.
Qu'est-ce que vous voulez?
Venez me voir au conservatoire, d'accord?
Au bout des doigts, un film qui raconte l'itinéraire compliqué d'un jeune de cité qui part à la rencontre de sa passion dévorante pour le piano.
Vous jouez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous jouez parce que c'est vital. Vous avez la musique en vous.
Bah ouais, il y avait un vrai travail. Moi, j'ai travaillé 3 mois à l'avance et c'était un vrai travail gestuel et corporel à atteindre pour le personnage de Mathieu.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir à défendre ce film avec... de sommité.
J'arrive même pas à la garder, je suis trop impressionné. Bah non, mais ça me fait quelque chose.
C'est
super.
Mais c'est très nouveau, en fait, aussi pour lui. Donc on a.
Attendez que nous.
Mais non.
Justement, qu'est-ce qu'il vous a appris, Jules, dans justement.
Je crois que son regard sur l'activité d'acteur, un tournage, était d'une très grande fraîcheur et de candeur et qu'on a besoin d'être remis en contact avec cette électricité-là.
Vous pensez sérieusement qu'il va pouvoir s'en sortir avec son numéro de chien savant? Oui, Malinsky, qu'est-ce que vous avez dans le ventre?
Révélation au César, quand même.
Ouais. Mais je suis très, très heureux aussi.
C'est vrai, je ne savais pas.
Oui.
Félicitations.
Merci.
Et je suis son parrain.
Ah, c'est bien.
Et je suis son parrain. Il me l'a proposé gentiment. Ouais.
Et il me fait l'honneur de pouvoir. Mais je suis très content, très heureux. C'est une vraie chance.
On souhaite donc bonne chance à Jules pour les Césars. Pendant ce temps-là, en Angleterre, Robbie Williams devenait l'égérie du plus célèbre des régimes.
Je veux être en meilleure condition physique, en meilleure santé, pour ma famille et mes enfants.
Le chanteur joint déjà l'utile à l'agréable dans la presse britannique. Il confiait cette semaine qu'en coulisses du télécrochet dans lequel il officie aux côtés de sa femme, il fait de l'exercice, enfin des galipettes, pendant les coupures pub. Vous savez quoi ? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Cette semaine, on est à Milan pour la sortie du plus glamour des calendriers qui rassemble cette année Gigi Hadid et Laetitia Casta. On va bien sûr tenter de les approcher. Preuve que nous sommes en Italie, c'est un photocall où l'on ose le mocassin uni, abstrait, mais aussi notre préféré, léopard. On a aussi assisté à la leçon de style, car l'élégance, ça ne se fabrique pas. Regardez, quand Laetitia Casta débarque, le temps s'arrête. Allez, reprenons-nous, zoom sur le calendrier qui déshabille les plus belles femmes de la planète et justement Laetitia Casta, mais surtout cette année, les hommes.
Pour la première fois, je me suis mise à regarder un homme et sa grâce en fait, parce que c'est vrai qu'on dit toujours des femmes, elles sont gracieuses, elles sont... Ben oui, mais les hommes aussi peuvent l'être.
Ce soir-là, on a aussi découvert les coulisses du shooting photo de Gigi Hadid, l'une des 10 top modèles les mieux payées au monde.
C'est un mannequin très doué. Et c'était justement ça le danger. Car je voulais qu'elle laisse tomber sa carapace pour mettre une réalité dans ses photos et ne pas montrer simplement la Gigi des tapis rouges. Elle était fatiguée et cela a vraiment nourri les photos.
Elle a même carrément baissé la garde. Gigi a le blues.
C'est comme ça que je me sens la plupart du temps quand je voyage seule. Il y a évidemment de la tristesse, comme pour tout le monde. Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'on peut la dépasser en rêvant et en regardant devant soi.
On espère que Gigi pourra se reposer durant cette fin d'année. Et oui, la période de Noël est de retour avec Mariah Carey, tradition oblige. Mais aussi Heidi Klum, très focus sur la déco de son sapin. Katy Perry et ses amis les lutins. Oh là là, des top modèles de Noël, c'est si beau. Ah, Céleste Barbore a encore frappé. Et en parlant de frapper, Emmanuel Béart partageait cette petite baston de Père Noël. On espère qu'ils vont se réconcilier avant le 24 décembre. On continue notre insider avec l'humoriste à voir absolument Guillermo Guise, un Belge comme moi. Oui, enfin surtout un Belge qui se fait appeler Guillermo Guise et on a vite compris pourquoi. Bonjour Guy, André, Daniel, non, il en manque un.
Michel
Verstraten.
Absolument, là, donc on démarre sous l'humiliation. J'ai pris un pseudonyme, pourquoi ? Pour qu'on arrête de m'appeler comme ça, merde, c'est une blague ou quoi ?
Moi je me suis fait saboter à la naissance. Par mes parents, à la naissance, le jour de ma naissance, parce que Guillermo Guise, peut-être certains parmi vous le savent, mais c'est un nom de scène. C'est-à-dire que moi, mon vrai prénom, c'est Guy.
Franchement, si une pote à toi, elle te fait « Oui, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Guy », tu vas lui dire quoi ?
Tu vas lui dire ça. Quel âge a-t-il ?
Quel âge a-t-il ? Ah oui, c'est bien, super, tu seras avec mon grand-père, c'est génial.
Quel est le moment que vous attendez particulièrement dans ce spectacle de stand-up ?
J'aime bien le... Il y a un moment où je parle du rapport à la guerre.
Je me dis qu'on m'a demandé, est-ce que toi tu serais prêt à te battre pour ton pays ? Moi je dis honnêtement, ça dépend contre quel pays quoi, vraiment. Il faut que je crois qu'on ait une petite chance de gagner, tu vois, genre contre Andorre quoi, ou le Liechtenstein ou le Luxembourg quoi, vraiment. Il y a le Luxembourg, militairement, on les prend, hein. Franchement. En vérité, le Luxembourg, même nous on les prend. Hein. Après le spectacle ici, on part à 7 voitures, tu vois. Mais imagine, on dit il faut aller se battre contre la Russie. Moi je serais là, vous faites ce que vous voulez les gars. Moi je vais rester sur une logique de désertion, c'est-à-dire que mon courage c'est comme mon wok. J'en ai un mais je m'en sers pas souvent quoi.
Guillermo Guise, c'est une heure d'humour à la belge, alors entre bons voisins, on se charrie.
On aura toujours ce rapport de petit frère à grand frère et puis voilà, c'est pas très grave fondamentalement, sauf quand il gagne la demi-finale de la Coupe du Monde contre nous, où là ça devient très grave.
On va en parler.
Et là je tiens à dire que là vraiment, alors là, sur plein de choses je suis d'accord, mais ça...
Laissez-nous tranquilles,
ça va.
À suivre dans la troisième partie de 50 minutes Inside l'actu, la story Jennifer Lopez, retour sur l'histoire de l'enfant du Bronx devenu superstar, c'est tout de suite. On l'a surnommée la Bomba Latine. À 49 ans, Jennifer Lopez est de retour au cinéma avec un nouveau film intitulé Seconde Chance, un film qui sort mercredi. Alors, elle est actrice, mais aussi chanteuse, évidemment, danseuse, productrice. Jennifer Lopez veut tout mener de front, une ambition qui lui a permis de bâtir un empire financier. Retour sur cet enfant du Bronx devenu superstar, c'est une story signée Caroline Amiard.
Boule de bowling en diamant et manoir de milliardaire, à 49 ans, Jennifer Lopez se réinvente en diva bling bling dans son nouveau clip Dinero. Une chanson qu'elle interprète en espagnol, un clin d'œil à ses origines portoricaines et une façon de surfer sur le succès de la pop hispanique. Jennifer Lopez est très intelligente. Elle repère les tendances et les suit à la perfection. Je ne pense pas qu'elle ait un seul style. Elle a juste le style du moment. Après des années de succès en demi-teinte, Jennifer Lopez est de retour avec de nouvelles chansons donc et un film, Seconde Chance.
La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi.
Elle y incarne Maya, une New-Yorkaise modeste qui s'est faite toute seule, un écho à son propre parcours.
Je suis originaire du Bronx, Maya du Queens. Nous avons la même éducation. J'ai tout de suite saisi d'où elle venait, avec qui elle avait grandi. Elle a un talent, elle est ambitieuse et elle veut se dépasser. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais elle n'a pas d'occasion de le montrer. Et comme elle, j'ai dû me faire un nom à Hollywood.
Jennifer est l'une des femmes les plus travailleuses que je connaisse. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait qu'elle est la meilleure dans son domaine.
Jennifer Lopez, ou l'histoire d'une ambition chevillée au corps d'une enfant du Bronx, devenue la Bomba Latina de l'Amérique. Sur ces images, le rappeur star de la fin des années 80, MC Hammer. Et à ses côtés, une jeune danseuse bien décidée à attirer l'attention, Jennifer Lopez. C'est l'une de ses toutes premières apparitions télé.
Gillo s'entraînait quand l'équipe d'MTV est arrivée et a demandé qui voudrait danser dans un clip de MC Hammer. Et elle a tout de suite dit, moi, je veux le faire. Gillo savait que c'était une opportunité de se faire remarquer et on la voit regarder la caméra dès qu'elle peut.
Jennifer Lopez a alors à peine 19 ans. Elle vient tout juste de quitter le Bronx, un quartier défavorisé new-yorkais où elle a grandi dans une famille modeste.
C'est une fille d'immigrés portoricains. Donc son père était informaticien et sa mère vendait des tupperwares et travaillait aussi dans une école. Elle, elle a grandi dans une petite maison à deux étages dans laquelle elle partageait une chambre avec ses deux sœurs.
J'ai toujours eu de grands rêves quand j'étais petite. Déjà à 4 ou 5 ans, je regardais la télévision et je savais que je voulais danser, chanter, jouer la comédie. Je savais que c'était ce que j'allais faire.
Mais Jennifer Lopez est bien la seule à croire en son destin. Face à l'incompréhension de ses parents qui tentent de la décourager, à sa majorité, elle part s'installer seule à Manhattan et vit de petits boulots.
Elle se nourrissait uniquement d'une part de pizza par jour qu'elle payait 1,50 $.
Elle dépensait tout son argent en cours de danse pour toujours s'améliorer et qu'au final, eh bien, elle se retrouvait à habiter chez une copine, chez un prof de danse ou même dans le studio de danse où elle s'entraînait toute la journée.
3 ans de persévérance qui finissent par payer. Jennifer Lopez décroche un rôle de danseuse dans In Living Color, un programme de télévision comique. Pour les besoins du tournage, elle déménage à Los Angeles avec l'espoir de percer à Hollywood.
Au début des années 90, elle n'avait que des petits rôles. Il fallait vraiment bien regarder et la chercher pour la voir. Elle jouait principalement des rôles de latino-américaine, mais elle disait que ça ne la dérangeait pas. Elle voulait juste jouer, peu importe le rôle.
Vous savez, il faut parfois faire semblant en attendant d'obtenir ce que l'on veut. Par exemple, vous rêvez d'être actrice, mais en fait, vous passez juste un casting pour une publicité, vous voyez. C'est comme ça que ça commence. À un moment, il faut se dire, bon, fais ce que tu as à faire pour arriver à ton but.
Et l'occasion tant espérée se présente enfin 5 ans plus tard. Un biopic consacré à Selena Quintanilla Pérez, une chanteuse latina décédée l'année précédente, est en préparation. Et Jennifer Lopez est bien déterminée à décrocher le rôle
malgré la concurrence.
Nous avons auditionné 80 000 femmes et jeunes filles qui voulaient toutes jouer le rôle de Selena. On a fait des castings à New York, Miami, San Antonio, Chicago et Los Angeles.
Après 3 mois de casting, ses efforts payent, comme elle le raconte lors de la sortie du film.
Il leur a fallu beaucoup de temps avant de me choisir. Ils ne se sont pas tout de suite dit « c'est elle, c'est la bonne ». Ils ont fait des tests vidéo avec 7 femmes, 4 actrices et 3 femmes castées dans la rue.
Le 15 septembre 1996, le tournage commence par une scène de concert pour laquelle 35 000 fans de la chanteuse disparue ont fait le déplacement.
Le public est devenu fou de joie. Je l'ai vu. Le père de Selena était là aussi. Et il pleurait. On était tous sous le choc. Comme si Selena était vraiment là.
C'est un sentiment unique. Quand vous entrez en scène, vous décuplez votre bonheur. C'est comme ça que je me suis sentie quand j'ai tourné cette scène, que les lumières se sont posées sur moi. On a tout fait en une seule prise. C'était vraiment magique.
À sa sortie, le film propulse Jennifer Lopez sur le devant de la scène.
C'est énorme, je ne m'attendais pas à ça. Je suis ravie que les fans soient venus voir le film.
Il y a un moment où une personne devient une star. Pour Jennifer, ce moment est arrivé quand elle a joué Selena.
Après avoir obtenu $1 million pour son premier cachet, je pense qu'elle a montré qu'elle était bankable. Donc elle a pu demander toujours plus d'argent.
À 28 ans, Jennifer Lopez a accompli 2 de ses rêves de petite fille, devenir danseuse et actrice. Lui reste alors un dernier objectif, se faire un nom en tant que chanteuse.
Elle enregistre une démo en espagnol, et son manager va envoyer cette démo au patron de Sony Music à New York, Tony Mottola, qui est aussi le mari à l'époque de Mariah Carey. Donc on rentre vraiment dans la chanson, dans le showbiz. Jennifer Lopez se dit c'est bon, elle rencontre Tony Mottola, et Tony Mottola lui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup votre démo, mais en espagnol, ça le fait pas, refaites-le en anglais. »
Le 4 mai 1999, l'Amérique découvre le premier clip de Jennifer Lopez, « If You Had My Love ». L'album « On the Six » sort 1 mois plus tard et reste numéro 1 des ventes pendant 5 semaines.
En fait, il combine pour la première fois les cultures pop, latina et urbaine qui étaient déjà originellement cloisonnées. Donc elle a fait éclater ces barrières-là. Donc elle définissait à l'époque son style comme Latin soul.
Les États-Unis se prennent de passion pour cette incarnation du rêve américain.
Okay. Comment c'est d'être Jennifer Lopez aujourd'hui?
C'est fantastique,
c'est vraiment bien.
Tout est formidable, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle, avec ma famille. J'ai l'impression que tout me réussit, je suis très heureuse. Et quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance.
Une histoire comme l'Amérique les aime, un modèle de réussite, une image de jeune femme parfaite que Jennifer Lopez ne va pas tarder à écorner. Quelques mois plus tard, elle s'affiche au bras du premier millionnaire du rap, Puff Daddy. Ils ont collaboré sur son premier album, mais leur relation a très vite dépassé le cadre du travail.
Partout où ils allaient, la presse les suivait. Sa notoriété a littéralement explosé avec Puff Daddy.
C'était un peu les Kim Kardashian et Kanye West d'aujourd'hui. Donc lui, rappeur puissant et successful, et elle, personnalité médiatique très exposée, avec un corps et notamment une paire de fesses très fétichisée.
Des fesses, objet de tous les fantasmes, qui rompent avec les codes de beauté de l'époque et sur lesquels J.Lo va miser.
On a longtemps raconté qu'elle avait assuré ses fesses pour $10 millions, ce qu'elle a fini par démentir.
Et quand elle se rend à la cérémonie des Grammy Awards le 23 février 2000, vêtue d'une robe verte signée Versace, elle va enflammer le web.
Il y avait un grand décolleté devant, un grand décolleté dans le dos. En fait, la robe a tellement fait parler d'elle que les gens ont voulu à tout prix retrouver des photos de cette robe. Et à l'époque, Google ne proposait que du texte. Et c'est pour répondre à ce besoin urgent d'image que la fonction image de Google avait été créée.
Au sommet de sa gloire, la bomba latina revient avec un album en octobre 2002, Jenny from the Block. Elle y chante la fidélité à ses origines et s'y met en scène avec son nouveau petit ami, l'acteur Ben Affleck, rencontré sur le tournage du film Amour Trouble.
Le but de ce clip, c'est aussi de dénoncer le revers de la célébrité, qui est son incapacité à préserver son intimité des caméras.
Pendant 2 ans, les deux tourtereaux illuminent les tapis rouges. Ben Affleck passe même une bague de fiançailles de plus de 1 million de dollars aux doigts de Jennifer Lopez. Mais ils ne se diront jamais oui.
Au cours de leur histoire, ils se sont beaucoup disputés. Il y avait des hauts et des bas dans leur relation. La veille du jour où ils étaient censés se marier, ils ont annulé la cérémonie. Les tabloïds avaient fait circuler des rumeurs et des photos sur une supposée liaison de Ben Affleck. Donc Jennifer Lopez a rompu ses fiançailles et elle a eu raison de le faire.
3 ans plus tard, Jennifer Lopez, qui a retrouvé le bonheur au bras du chanteur de salsa Marc Anthony, donne naissance aux jumeaux Max et Aimé. 32 ans après ses débuts, Jennifer Lopez a assuré ses arrières et est devenue une femme d'affaires redoutable en misant sur son nom.
Elle a sa propre ligne de vêtements, plusieurs parfums à son nom. Elle a même sa société de production télévisuelle et cinématographique nommée New Yorkaine Productions, une contraction des mots New York et portoricaine. Elle a réussi à se diversifier pour devenir une marque qui se vend très très bien.
Voilà, voilà. Et bien, pour le podcast de Ford, c'était l'actu People avec TF1. 50 minutes insider, et voilà, c'est vraiment là qu'on s'arrête. On s'arrête ici. Nous disons merci aux sponsors que nous avons: Seaboard Marine, Flipboard, Aromark Shipping, et également Bisous d'Agency Beauty Salon, et finalement pour l'Université Atlantique d'Haïti. Pour nous contacter, si vous voulez nous contacter, eh bien, il faut taper le podcast de Ford à gmail.com. Le podcast de Ford à gmail.com, eh bien, c'est notre email. Ainsi, si vous voulez avoir des interviews, vous voulez avoir, vous avez des documentaires, ou tout ce que vous avez, vous voulez nous présenter, eh bien, c'est sûr que ce sera avec plaisir que nous nous ferons le plaisir de vous contacter. En retour. Merci et à bientôt.